J'ai une très bonne question pour vous. Quand est-ce que les croyants de l'Ancien Testament vont ressusciter? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse encourageante pour tous les croyants, aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on termine l'étude du livre de Daniel. On va apprendre des choses merveilleuses alors que ce livre de la Bible va répondre aux questions que voici. Quels sont les trois éléments importants de la vision de Daniel? Qui est-ce qui nous a annoncé qu'il y aurait une grande tribulation? Quel est le rôle de l'ange Michaël? Quand est-ce que les croyants de l'Ancien Testament vont ressusciter? Que doivent faire les croyants d'ici l'enlèvement de l'Église? Quand est-ce qu'Israël reviendra à Dieu? Quelles sont les personnes qui sont purifiées depuis l'époque de Daniel? Qu'est-ce que les méchants ne comprennent pas depuis l'époque de Daniel? Qu'est-ce que la Bible entend par la fin des jours? Comment peut-on aimer Dieu? Restez là, la parole de Dieu est sur le point de répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, on aime ta parole, et on veut que ce soit toi qui nous enseignes par la bouche de ton serviteur aujourd'hui. Touche nos cœurs par ta parole, et donne-nous la force et l'amour pour la pratiquer chaque jour, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu quel genre de personne sera l'Antéchrist. Il ne craindra pas aucun dieu, et il établira sa propre religion et se fera passer pour un dieu. Il se révoltera contre le véritable Dieu et son Fils Jésus-Christ. Il n'y aura jamais eu sur terre un régime aussi tyrannique que celui de l'Antéchrist. Cette personnalité diabolique honorera Satan. Nous avons vu plusieurs signes précurseurs de l'Antéchrist. Nous avons vu que le monde s'oppose de plus en plus au véritable christianisme. Nous avons cité de nombreux exemples qui démontrent cela, tel le bannissement de tous les symboles religieux des endroits publics. Nous vous avons rappelé l'exhortation de l'apôtre Paul à prier pour les gouvernements afin que nous puissions vivre en paix. Cette exhortation devient de plus en plus urgente aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui nous examinons le 12e et dernier chapitre du livre de Daniel. À la prochaine émission, nous entreprendrons un nouveau livre, l'étude de l'Épître aux Hébreux. Quels sont les trois éléments importants de la vision de Daniel? Le chapitre 12 termine l'explication de la vision qui a débuté au chapitre 10. Le tout forme une seule vision et tous les éléments s'emboîtent comme les pièces d'un casse-tête. Certaines personnes prennent des éléments ici et là de cette prophétie et lui font dire ce qu'ils veulent. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que c'est une seule vision. Et l'ange a dit au sujet de celle-ci. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Daniel, chapitre 10, verset 14. Ce verset nous indique trois éléments importants. Premièrement, l'expression « ton peuple » indique que la prophétie concerne la nation d'Israël après que l'Église aura été enlevée de la terre. Deuxièmement, la vision s'accomplira dans la suite des temps. La suite des temps de l'Ancien Testament réfère au dernier jour du Nouveau Testament que le Seigneur appelle la Grande Tribulation et qui est la 70e semaine de Daniel. Troisièmement, car la vision concerne encore ces temps-là. Cette vision était donc pour un temps lointain par rapport à l'époque de Daniel, à l'époque de la vision et de la rédaction du livre. Il s'est déjà écoulé un peu plus de 2500 ans depuis cette vision. La Bible ne précise pas la date de ces événements. Ceux qui en annoncent une n'ont pas l'autorité de le faire. L'Église devra être enlevée avant l'accomplissement de la prophétie. C'est le prochain événement majeur dans le programme et le plan de Dieu. Chers amis, débutons la lecture de ce dernier chapitre du livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Qui a employé l'expression « grande tribulation » ? Selon quelle autorité appelons-nous cette période la grande tribulation ? Selon l'autorité du Seigneur Jésus, parce qu'il a employé le même langage que Daniel en parlant de la grande tribulation. Il a dit que ce serait une période brève, un temps de grand trouble, et qu'il n'y en aura jamais eu de tel, et qu'il n'y en aura pas d'autre dans la suite. Le Seigneur Jésus appelle cette période la grande tribulation. Le Seigneur Jésus savait ce qu'il disait, et nous allons l'accepter. Matthieu chapitre 24, les versets 15 à 26. L'expression « en ce temps-là » se rapporte au temps de la fin. Daniel, chapitre 11, verset 35, verset 40, ainsi chapitre 12, verset 4. Et à la suite des temps, toujours Daniel chapitre 10, verset 14. Nous sommes à la fin de la vision de Daniel et elle se termine avec la grande tribulation. Quel est le rôle de Michaël? Michaël est identifié dans ce verset. Il est le seul ange qui ait reçu le titre d'archange. Ce titre est mentionné au verset 9 du livre de Jude. Ce nom signifie « qui est comme Dieu ». C'est lui qui chassera Satan du ciel. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Il protège la nation d'Israël et il la défend comme l'indique clairement Daniel dans ce verset. Sa stratégie est résumée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 12, les versets 14 à 16. L'expression « des enfants de ton peuple » réfère à la nation d'Israël, sinon le langage est vide de sens. Ce sera une époque de détresse. Cette époque est la période de la grande tribulation que Jésus a mentionnée dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 21. Le reste d'Israël, qui croira toujours, sera préservé. Matthieu 24, verset 22, Romains chapitre 11, verset 26, et Apocalypse chapitre 7, verset 4. Je cite ce dernier verset. « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Apocalypse chapitre 7, verset 4. Lisons maintenant Daniel, chapitre 12, le verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Quand ressuscitent les croyants de l'Ancien Testament? « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Le reste d'Israël qui vivra pendant la grande tribulation sera préservé. » Et la foule de personnes des autres nations qui sera sauvée pendant cette période sera préservée aussi. Ceux de l'Ancien Testament qui sont morts et qui faisaient partie du reste d'Israël, ainsi que les gens des autres nations qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament, ressusciteront pour la vie éternelle à la fin de la grande tribulation. Les croyants de l'Ancien Testament ne sont pas ressuscités au moment de l'enlèvement de l'Église. L'Écriture affirme qu'à l'enlèvement, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Nous sommes placés dans le Seigneur Jésus par le baptême du Saint-Esprit qui a débuté le jour de la Pentecôte et qui se terminera à l'enlèvement de l'Église. Ce corps ou ce groupe de croyants s'appelle l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13, nous lisons « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, qui étaient des Juifs, des Israélites, qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit et incorporés au corps des croyants qui est l'Église. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 5. lorsque l'Église sera enlevée de ce monde, les croyants de l'Ancien Testament ne seront pas ressuscités. Pourquoi? Parce que c'est à la fin de la période de la grande tribulation qu'ils entreront dans le royaume, lorsque le Seigneur Jésus reviendra établir son royaume messianique. Les croyants de l'Ancien Testament ressusciteront à ce moment-là. Abraham, Isaac et Jacob ressusciteront pour faire partie du royaume millénaire terrestre. Par contre, s'ils ressuscitaient au moment de l'enlèvement de l'Église, ils devraient se tourner les pouces pendant 7 ans. Cela risquerait de devenir ennuyant. Par contre, l'Écriture affirme clairement qu'ils reviendront à la vie à la fin de la grande tribulation. L'expression « et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle » réfère aux âmes perdues de l'Ancien Testament qui ressuscitent pour le jugement du grand trône blanc à la fin du règne millénaire et que nous pouvons lire dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Pour l'instant, poursuivons la lecture du prophète Daniel, chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Que doivent faire les croyants? Les serviteurs de Dieu brilleront comme des étoiles dans les ténèbres de la grande tribulation. Les croyants doivent faire de même aujourd'hui. Nous devons être une lumière dans notre monde, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens, chapitre 2, verset 15. À l'époque de la grande tribulation, le reste sera composé des ambassadeurs de Dieu dans le monde, et ils enseigneront la justice à la multitude. Cette justice est celle de Jésus-Christ, la seule justice que Dieu puisse accepter. Notre justice est comme un vêtement souillé, du linge sale, nous dit le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Aux yeux de Dieu. Il nous arrive de nous penser bons et justes, mais Dieu ne voit pas les choses du même œil. Nous nous applaudissons mutuellement et nous nous complimentons les uns les autres. Nous nous disons que nous sommes merveilleux, alors que nous ne remplissons que des paniers de linge sale. Dieu n'accepte pas nos œuvres. Il accepte la justice du Seigneur Jésus, et nous l'obtenons par la foi en lui. Revenons au prophète Daniel, lisons le verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Pour qui devons-nous garder nos yeux ouverts? Les prophéties devaient être scellées jusqu'au temps de la fin. Ceci ne réfère pas à la fin des temps, mais à une période de temps définie qui est la 70e semaine du livre de Daniel. Puisque nous sommes probablement dans une période précédant de peu l'enlèvement de l'Église, bien qu'on ne puisse donner une date pour l'événement, il est difficile d'évaluer à quel point nous comprenons ces prophéties. Puisque de nombreux érudits et bons commentateurs diffèrent d'opinion au sujet de l'interprétation de la prophétie, il semble qu'il y a beaucoup d'éléments que nous ne comprenons pas. Cependant, lorsque cette époque arrivera, nous comprendrons beaucoup mieux. Nous devons garder nos yeux ouverts pour une seule chose, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Citation de Tite, chapitre 2, verset 13. Le texte de Daniel précise « Plusieurs alors le liront. De nombreuses personnes liront et consulteront ce livre. Plusieurs étudieront sérieusement la prophétie, ce que de nombreux érudits font aujourd'hui. Aujourd'hui, cela se fait plus intensément qu'autrefois. Au cours de diverses époques de l'histoire de l'Église, certaines doctrines ont été bien développées à cause de certaines circonstances. Dès le début de l'Église, la doctrine de l'inspiration de l'Écriture a été bien formulée, ainsi que la doctrine de la divinité de Jésus-Christ, de la rédemption et de la Trinité. Depuis le milieu du 19e siècle, et surtout du 20e siècle, les théologiens et les chrétiens se sont davantage intéressés à la prophétie. La connaissance augmentera. Parfois, les circonstances historiques font progresser une doctrine. Par exemple, la réforme provoquée par la corruption du clergé à la fin du Moyen Âge a conduit à la redécouverte du salut par la foi. Aujourd'hui, toutes les doctrines fondamentales sont bien développées. Les dernières étant soumises à un examen sérieux sont les prophéties. Versets 5 à 7. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Ces versets nous ramènent à la vision que Daniel a vue au chapitre 10. Quand est-ce que Israël reviendra à Dieu? L'homme vêtu de lin. Nous l'avons identifié comme étant le Seigneur Jésus. Deux autres hommes se joignent à lui, un de chaque côté du fleuve Tigre. L'un d'eux demande au Seigneur Jésus quand tout cela se produira, combien de temps dureront les prodiges annoncés. Le Seigneur Jésus jure que cela se fera pendant 3 ans et demi, soit la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, à la fin de la grande tribulation, la rébellion d'Israël sera entièrement brisée et le peuple reviendra à Dieu. Retournons au texte de Daniel, chapitre 12, verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Bien que Daniel ait été témoin de la scène, il n'a pas compris la signification de ce qu'il a vu et entendu. Daniel était perplexe et il voulait savoir ce qui se produira exactement. Verset 9. Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » L'homme rappelle à Daniel que ces choses se produiront au temps de la fin et qu'elles sont temporairement scellées. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 3 grands principes toujours valables. Ces grands principes ont toujours été valides depuis l'époque de Daniel, et ils le seront jusqu'au temps de la fin, qu'importe la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Premièrement, plusieurs seront purifiés. Ce sont ceux qui sont venus à Jésus-Christ. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, verset 5. Deuxièmement, aucun des méchants ne comprendra. Le méchant est l'homme naturel qui n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Troisièmement, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Le Seigneur Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » L'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Lisons Daniel, chapitre 12, verset 11. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Nous ne pouvons pas trop insister sur l'importance de ce verset, car le Seigneur s'y est référé dans Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ce verset indiquera au reste que la grande tribulation est commencée. Pendant 1290 jours, l'idole de la bête demeure dans le temple. En fait, c'est 30 jours au-delà des 3 ans et demi. La deuxième moitié de la grande tribulation dure 1260 jours, et Pour une raison inexpliquée, la statue de l'Antéchrist demeurera 30 jours après que l'Antéchrist aura été jeté dans les temps de feu. Verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ce verset parle d'un autre laps de temps de plusieurs jours au sujet duquel nous avons cette seule explication. Heureux celui qui attendra et qui arrivera. Personne n'a la clé pour interpréter ce verset. Il est scellé jusqu'au temps de la fin. Parfois, nous cherchons à savoir davantage que Dieu a bien voulu nous révéler. Verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel se fait dire qu'il mourra, tout comme le Seigneur Jésus l'a dit à Pierre. Il ne verrait pas le retour de Jésus-Christ, mais il ressuscitera pour ensuite participer au millénium. Et le texte rajoute à la fin des jours. Cette expression nous conduit à la porte du royaume de Jésus-Christ. Mes amis, c'est l'avenir qui nous attend. Un jour, Jésus revient établir son royaume et cet espoir devrait nous encourager dans ces temps difficiles. Mes amis, nous terminons un livre difficile, un livre qui a fait couler beaucoup d'encre et qui le fait toujours. Cependant, ces doctrines profondes ne doivent jamais détourner nos regards de ce qui est le plus fondamental dans la Bible. Dieu veut notre cœur. Le plus grand commandement est d'aimer Dieu. Moïse a transmis ce commandement divin au peuple alors qu'il se trouvait dans le désert à la sortie d'Égypte, et le Seigneur Jésus l'a confirmé dans les évangiles. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, le Seigneur Jésus a répondu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu chapitre 22 verset 37. Comment peut-on aimer Dieu? Où pouvons-nous obtenir un cœur qui aime Dieu? En fait, sans amour pour Dieu, dans notre cœur, la porte du ciel ne nous est pas ouverte. Nous sommes toujours dans le royaume des ténèbres. Pour obtenir un cœur qui aime Dieu, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, nous repentir et recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Seul Dieu peut nous donner un cœur nouveau, nous faire naître de nouveau, ou naître spirituellement. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel, chapitre 36, les versets 26 et 27. Oui, venez à Dieu et demandez-lui pour un tel cœur, un cœur nouveau. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 3. Ce merveilleux don de la vie éternelle est gratuit. Jésus-Christ vous le procure par sa mort sur la croix. Sa vie est la rançon qu'il a payée pour sauver tous ceux qui croiraient en lui. Sur la croix, il a payé pour tous les péchés de ceux qui viendraient à lui et qui le recevraient comme sauveur personnel. Mes amis, venez à Jésus-Christ et il vous sauvera. Et il vous donnera un cœur capable de l'aimer, et il comblera votre âme. Cette émission vous a fait connaître celui seul qui peut combler votre être entier, c'est-à-dire Jésus-Christ. Préparons-nous pour la prochaine émission un nouveau livre, un livre du Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régent. Chers amis, on a bien vu aujourd'hui que le jour viendra certainement où les croyants se reposeront. Mais en attendant, on est encouragé à marcher vers notre fin, puisqu'on sera debout pour notre héritage à la fin des jours. Qui sait, mes amis, on fait peut-être partie de ceux qui ne passeront pas par la mort et qui iront à la rencontre du Seigneur dans les airs avec les autres croyants qui ressusciteront. Wow! Mais j'ai particulièrement aimé la manière dont Régent a terminé le message. Il a dit que ces doctrines profondes ne devrait jamais détourner nos regards de ce qui est fondamental dans la Bible, et c'est que Dieu veut notre cœur. Il a ajouté que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. C'est Jésus lui-même qui nous a commandé d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et Régent nous a même dit comment on pouvait aimer Dieu. Il a dit qu'il fallait reconnaître notre état de pécheur, nous repentir et recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Mon ami, tu te demandes peut-être comment on fait ça. Eh bien, c'est simple. Tellement simple qu'un enfant peut comprendre. Premièrement, reconnaître notre état de pécheur. Tu te dis peut-être en toi-même, je ne suis pas si pécheur que ça. Après tout, je ne fais pas mal à personne, j'aide les gens autour de moi. Mais il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 10, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et je cite souvent cette même Épître au chapitre 3, verset 23, où Paul nous dit que tous ont péché. Alors, mon ami, avoue que toi aussi, tu es un pécheur, une pécheresse. Deuxièmement, tu dois te repentir. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en éloigner. Et troisièmement, ce qui est très important, c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Tu veux savoir comment faire? Eh bien, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tes péchés, qu'il s'est laissé crucifier sur une croix pour recevoir ta condamnation sur lui, lui qui est le seul à être venu sur cette terre sans jamais pécher, si tu crois qu'il n'y a aucun autre moyen de recevoir le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, eh bien, il ne te reste qu'à lui dire « Seigneur Jésus, sauve-moi, je me repens, pardonne-moi, donne-moi la vie éternelle que je ne mérite pas. Je veux désormais que tu sois non seulement mon sauveur, mais mon Seigneur, c'est-à-dire mon Maître. » Alors maintenant, mon ami, remercie le Seigneur pour le don gratuit de la vie éternelle que tu viens peut-être de recevoir. Que son esprit, qui vient de faire sa demeure en toi, te conduise. Que la Bible, la parole de Dieu, soit ton livre de chevet, ton guide d'instruction pour mieux connaître ton Dieu merveilleux et ce qu'il attend de toi pour qu'il soit glorifié en toi et que tu aies une vie abondante en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salut n'est pas compliqué, mais il a coûté cher, mon ami. Il a coûté les souffrances et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Mon ami, tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Demande-lui ce salut. Demande-le à Jésus maintenant.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.